Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. L'étoile montante de la droite dure israélienne, Naftali Bennett, était à Paris dimanche dernier à l'occasion du Nouvel An juif. Le ministre chargé de la diaspora a affirmé qu'en dépit du climat social qui se détériore en France, aucun juif ne devrait baisser la tête. Le politicien a souhaité qu'un maximum de matières grises françaises rejoignent Israël. Et de fait, depuis le début de l'année, le nombre de dossiers d'immigration de Français de confession juive vers Israël est en très forte augmentation. Meurtrière, obscurantiste, ultra-violente, l'organisation État islamique sait pourtant faire sa pub. Elle a même fait connaître récemment une nouvelle stratégie de communication qu'elle met en œuvre méthodiquement. À suivre également la revue de presse, Regard croisé sur Israël et le monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire.
Orient Hebdo sur RFI.
Le phénomène du retour de la diaspora juive vers la terre d'Israël, ce que l'on appelle l'Aliya, est-il en train de prendre de l'ampleur? C'est la question que l'on peut se poser en regardant simplement les chiffres de ces derniers mois. Rien que pour la France, l'un des pays où les citoyens de confession juive sont parmi les plus nombreux hors d'Israël, le retour concernera cette année environ 4000 personnes contre 3000 l'an dernier et 2000 en 2012. Georges Bensoussan, bonjour.
Bonjour.
Historien, rédacteur en chef de la revue d'histoire de la Shoah et responsable éditorial au Mémorial de la Shoah à Paris. Alors nous évoquions en introduction les chiffres annuels en hausse du nombre d'alias. On va y revenir, mais tout d'abord, rappelez-nous ce qu'est l'alias.
L'alias, c'est tout simplement le fait pour un juif d'aller vivre en terre d'Israël. C'est pas un phénomène nouveau, c'est un phénomène très ancien qui est lié au peuple juif lui-même depuis toujours. En fait, l'alias n'a rien de contemporain au XXe siècle. Elle existe depuis que le peuple juif existe parce qu'il y a un lien charnel, consubstantiel, spirituel, intellectuel, entre ce peuple et cette terre, depuis que le judaïsme existe, comme la Bible, de toute façon, l'atteste. La seule différence, c'est qu'en gros, l'Aliya a des motivations religieuses jusqu'à la fin du XIXe siècle, et que depuis la fin du XIXe siècle, le projet sioniste a des motivations davantage politiques.
Visiblement, il y a une accélération du nombre d'Aliya.
Très nette. Alors, elle est impressionnante. En gros, pour les chiffres, on est en 2012, je vous donne les chiffres exacts, en 2012 à 1907 départ, en 2013 à 3200, en 2014 sur les 8 premiers mois à 4566. C'est-à-dire qu'on s'attend à la fin de l'année en décembre pratiquement à 5500. Alors en soi, ce sont des chiffres peu importants, mais 6000 ça fait tout de même 1% au minimum, 1% de la communauté juive de France, mais ce qui est plus important, c'est la tendance, c'est le décrochage. Jusqu'aux années 90-2000, on avait entre 1000 et 1200 personnes qui partaient. C'était dérisoire pour la plus grande communauté juive du vieux continent. Aujourd'hui, quand on arrive à 4000, 5000, 6000 personnes, là, réellement, on a une accélération en deux ans, 2012-2014, de 200%.
Est-ce que l'État d'Israël a un rôle dans cette augmentation du nombre d'alias?
Absolument aucun rôle en tant qu'organisateur. Il a un rôle en tant essentiellement que cadreur. C'est-à-dire que l'État d'Israël, c'est pas l'auberge espagnole, c'est pas un pays anarchique, c'est un pays où on émigre un peu comme on émigre en France. Autrement dit, il y a des droits, il y a des lois, il y a un cadre. L'État d'Israël organise cette Aliya. Alors qu'est-ce qu'il fait pour l'organiser? Eh bien, il aide les nouveaux immigrants. Il leur permet de s'installer, il leur permet d'apprendre l'hébreu. Son rôle essentiel n'est pas celui d'un chef d'orchestre, parce que vous savez, il y a toujours cette motivation, cette rumeur qui court, le fantasme du complot juif, l'État d'Israël serait derrière, le Mossad, le Shin Bet, qui organiserait l'Aliya des Juifs des États-Unis, des Juifs de France. Là, on est vraiment dans la répétition du complot juif la plus bébête, la plus débile, la plus simpliste. Invoquer par exemple des motivations économiques pour l'Aliya, c'est faire totalement fausse route, parce que les Juifs de France, quand ils arrivent en Israël, s'aperçoivent qu'ils ont quitté un pays de cocagne, très assisté socialement, qui s'appelle la France, pour arriver dans un pays dur où l'assistance ou l'assurance chômage dure 4 mois. Au-delà de 4 mois, vous n'avez rien. Et où la sécurité sociale est largement privatisée.
Alors, quelles sont les motivations de ceux qui sont candidats à cet alien aujourd'hui?
Écartons la motivation économique, parce que c'est cette rumeur qui court selon laquelle les Juifs de France s'exileraient pour des motifs fiscaux. La majorité des Juifs qui partent cette année, comme l'an dernier, comme avant, en 2012, en 2010, en 2011, etc., sont des Juifs de familles nombreuses, religieuses, pauvres, qui ne sont même pas assujettis en France à l'impôt sur le revenu. Deuxième point, s'il y a des Juifs riches qui veulent fuir l'impôt en France, il ne faut pas en Israël, où le taux d'imposition est très lourd. Je vais vous donner un exemple clair. Sur un salaire brut de 3 000 euros, ce qui est un salaire très élevé en Israël, eh bien l'imposition à la source est de 1000 euros. Vous payez 1000 euros par mois. Le taux d'imposition à cause de l'armée, vous l'avez bien compris, les dépenses militaires sont très lourdes, est considérable. Donc, d'abord et avant tout, on a d'autres motivations. Alors, quelles motivations ?
Politiques, peut-être ?
Bien sûr. Certainement pas les motivations sociales. Je vous l'ai dit, c'est beaucoup plus dur de vivre là-bas parce que, en dehors d'un niveau de vie qui est plus bas qu'en France, d'un taux d'imposition qui est plus lourd qu'en France, du fait qu'il n'y a pas de RSA, il n'y a pas d'APL, il n'y a pas de CME, il n'y a pas de CMU, il n'y a pas d'allocation de rentrée scolaire en Israël. La vie est dure, les études sont payantes à l'université, elles ne sont pas gratuites comme en France. Vous avez l'armée. 3 ans d'armée pour les garçons, 2 ans pour les filles. Alors, aller trouver des motivations pour vivre plus facile en Israël, je crois que c'est faire vraiment fausse route. Non, les motivations, elles sont de 3 ordres à mon avis. D'abord, la volonté de vivre un judaïsme plus libre. Et là, c'est ce qui explique qu'une bonne partie de l'Alia des Juifs de France est religieuse, en fait. Ce sont des Juifs pratiquants qui partent. Pour beaucoup, pas tous, hein, mais une grande majorité. Une économie plus dynamique qu'en France. Le taux de croissance est de 5-6%, le taux de chômage est de 4-5% en moyenne. C'est pas du tout le marasme français. Mais la raison principale, la raison qui est le déclencheur de l'Alia, c'est le fait que nous sommes dans le pays aujourd'hui, en Europe, qui est le plus gangrené par l'antisémitisme. Un antisémitisme qui a été largement véhiculé par Dieudonné, par Soral.
Vous parlez de la France. Hein.
De la France, bien sûr, de la France et de la Belgique, mais de la France surtout, sur fond de haine d'Israël. Effectivement, ça n'est pas un antisémitisme qui dit clairement son nom, parce qu'on ne peut pas être antisémite après Auschwitz. Simplement, c'est un antisémitisme qui prend la forme d'une haine passionnelle d'Israël, une véritable doxa. Alors, la question est la suivante. Est-ce que les Juifs de France sont victimes d'insécurité, ou est-ce un fantasme dans leur tête, une sorte de paranoïa habituelle aux Juifs, comme on dit? Hélas non, Bernard Cazeneuve, le ministère de l'Intérieur, dit que c'est une réalité, il l'a dit récemment, Manuel Valls l'a dit au moment du mois de juillet. Alors je crois que vous avez l'une des raisons profondes de la crainte des Juifs de France qui fait qu'ils en ont assez de ce climat délétère, de ce climat où le fait d'être juif est aujourd'hui un signe de suspicion, et ils préfèrent partir pour vivre une vie juive tout à fait plus libre, plus authentique, parce que le gros de l'émigration des Juifs de France concerne des jeunes parents, de gens de 30 à 40 ans qui ont des enfants en bas âge, en tous les cas, et qui ne veulent pas voir l'avenir de leurs enfants compromis.
Georges Bensoussan, on parle de l'Alia, donc ce départ vers Israël. Est-ce qu'il y a des échecs et est-ce que des gens reviennent ?
Bien sûr qu'il y a des échecs. Alors le problème, c'est qu'on a du mal à voir les chiffres. Aujourd'hui, on en sait quand même un peu plus. On pense qu'il y a une 30aine d'années, le taux d'échec des Juifs de France, qui étaient les Juifs les moins bien intégrés de toute l'Alia du monde entier. Bon, pour des raisons culturelles, parce que la culture française est assez puissante pour avoir du mal à s'intégrer au moule israélien. On pense que le taux d'échec était de 30%. Aujourd'hui, on sait à peu près, mais par des canaux différents, jamais de sources officielles, que le taux d'échec est d'environ de 10%. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'un article récent du Monde faisait état de 30% d'Israéliens qui souhaiteraient quitter le pays. C'est probablement vrai. Simplement, c'est oublier, premièrement, que 30% ne quittent pas le pays, mais qu'Israël appartient aux nations occidentales, c'est-à-dire à un monde ouvert, à un monde où on bouge, à un monde où on émigre beaucoup, et on émigre pour des raisons économiques, parce que la vie, par exemple, sur le plan immobilier, est plus facile à Berlin qu'à Tel Aviv. À Tel Aviv, un appartement est hors de prix, à Berlin, c'est plus facile de se loger. Bon, tout simplement. Et donc, on ne voit pas pourquoi Israël échapperait à ce modèle occidental d'une société beaucoup plus mobile.
On ne quitterait pas Israël pour des questions de sécurité?
Certainement pas sur le fond. Au contraire même, on voit des Israéliens émigrer aux États-Unis ou ailleurs qui, dans les périodes de fortes tensions militaires, font tout leur possible pour rejoindre l'ambassade et rejoindre l'armée israélienne et les rangs de leur pays. C'est-à-dire qu'on a un mouvement, au contraire, de retour dans les moments de danger.
Merci Georges Bensoussan, historien, responsable éditorial au Mémorial de la Shoah à Paris. Nous parlions donc de l'Alia, ce retour des Juifs, notamment français, vers Israël.
Merci à vous.
Orient Hebdo sur RFI.
L'organisation État islamique, qui est active actuellement en Irak et en Syrie, sait aussi utiliser cette organisation, les nouveaux moyens de communication, pour assurer sa promotion et faire sa pub. Et en la matière, tous les moyens sont bons. Wassim Nasr, bonjour.
Bonjour.
Reporter à France 24, spécialiste de la mouvance terroriste. À votre connaissance, L'organisation État islamique a mis en place une stratégie de communication très particulière.
Ils ont une stratégie bien ficelée. Donc, à chaque fois, ce qu'ils communiquent, donc à la différence des autres groupes djihadistes, ils choisissent leur target audience ou le public visé. Donc, les vidéos qui s'adressent aux locaux, aux Syriens et aux Irakiens, n'ont pas les mêmes codes que les vidéos qui s'adressent aux décideurs, que ce soit en Occident ou dans les pays arabes, ou celles qui s'adressent à l'opinion publique en Occident, comme ce qu'on a vu dans la série qui a été annoncée par le journaliste otage britannique John Kentley. Donc là, on voit que mi-septembre, ils ont fait une sorte de trailer ou de bande-annonce pour dire il y aura une série de 7 vidéos qui va vous expliquer la philosophie, entre guillemets, ou l'idéologie de l'État islamique. Donc ça a pas loupé. Il y a une deuxième, le 23, une troisième hier. Et donc, c'est un vrai pas en avant, entre guillemets, dans la communication de l'État islamique en tant que tel et des mouvances djihadistes en tout.
Qu'est-ce qu'on voit sur ces vidéos ?
Donc bien sûr, on voit toujours l'habit orange, donc qui ramène à Guantanamo, qui ramène à l'idée qu'on vous rend la monnaie de votre pièce aux Américains, mais aussi on voit un journaliste nous parler aux Occidentaux, à l'opinion publique, avec les codes journalistiques, avec les codes qu'on comprend, on va dire. Parce que dans ces vidéos, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de référence religieuse, il n'y a pas de référence djihadiste, ou très peu. Il y a par contre des références à la communauté des renseignements américaines, des choses compréhensibles par un public occidental et des choses qui vont pousser les gens lambda à regarder de bout en bout. Pourquoi ? Parce qu'une vidéo de décapitation, bon, peu de gens vont regarder jusqu'au bout, ou vont regarder le début, après ils vont arrêter, mais ce genre de procédé, de dire que c'est une série compréhensible par tout le monde, sans violence, sans code incompréhensible, comme les codes djihadistes ou les codes religieux, eh ben bon, ça va pousser les gens à regarder, et forcément, quelque chose va rester dans la tête des gens.
L'idée, c'est de dédiaboliser l'organisation ?
Oui, tout à fait, c'est de dédiaboliser, et c'est d'expliquer et de contrer, dans leur sens, la propagande qui se fait contre eux, parce qu'il est aussi à noter que, dans la vidéo diffusée lundi, il y a eu le premier démenti officiel dans la bouche de Kentley, comme quoi il y a eu massacre contre des civils yézidis et chrétiens en Irak. Et donc ça, entendre un djihadiste le dire, c'est une chose, mais entendre Kentley, même s'il est otage, le dire avec le langage compréhensible par tout le monde, c'est autre chose.
Par ailleurs, l'organisation était connue pour avoir un certain nombre de suiveurs sur Twitter. Est-ce que ça, c'est toujours en cours, ou est-ce qu'ils ont des difficultés, l'organisation de l'État islamique, pour rester sur Twitter ?
En ce qui concerne les suiveurs ou les fans, ils sont partout dans le monde. Et c'est des gens qui n'ont aucun lien direct, la plupart du temps, avec l'organisation en tant que telle. Et donc, quelle est la mission, entre guillemets, de ces fans ? C'est de garder la propagande de l'État islamique vivante sur les réseaux. Beaucoup de gens s'étonnent, ils se disent « Bon, comment ça se fait que YouTube ne vire pas les vidéos ?» YouTube vire les vidéos, Twitter ferme les comptes. Mais l'État islamique, il diffuse un lien officiel et la vidéo reste vivante grâce à ses supporters ou à ses fans qui sont de par le monde, qui peuvent être des gamins, des ados ou autres, qui à chaque fois que YouTube vire une vidéo, ils la remettent sur les réseaux. En ce qui concerne Twitter, ça veut dire que ces gens-là sont très présents, ils se comptent par milliers, et même chaque personne peut avoir 100 comptes, il n'y a rien qui empêche ça. Mais aussi, il faut savoir que des chefs et des combattants djihadistes de l'État islamique sont aussi présents sur Twitter. Même, ils étaient très très présents. Maintenant, Twitter a une politique de combattre ce groupe sur le réseau. Oui, ça a lieu tous les jours, mais c'est devenu une sorte de sport national, entre guillemets, pour ces djihadistes de refaire vivre les comptes et de les remettre à jour et de retrouver les followers. C'est une affaire qui a lieu tous les jours maintenant.
Donc, une stratégie de communication tous azimuts pour l'organisation. Merci, Wassim Nasser. Je rappelle que vous êtes reporter à France 24.
Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem, où nous attendent Alexandre Boutchanti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Alexandre, la presse arabe est préoccupée après l'approbation par le Parlement turc d'une intervention militaire en Syrie et en Irak.
Oui, c'est vers un retour de l'Empire ottoman. C'est la question et la formule qu'utilisent plusieurs éditorialistes pour rappeler que le Mashrek arabe était occupé par la Turquie jusqu'à la Première Guerre mondiale Et donc, le monde arabe ne peut être que méfiant à l'égard de ce que certains appellent l'expansionnisme turc. Alors, d'autres accusent le président turc, Recep Tayyip Erdogan, de vouloir s'ériger en nouveau calife. Ils craignent une occupation du nord de la Syrie et de l'Irak par les forces turques sous prétexte de créer une zone tampon. Alors, les journaux égyptiens vont même jusqu'à accuser la Turquie d'Erdogan d'avoir directement ou indirectement renforcé Daesh, le nom en arabe pour le mouvement de l'État islamique. Et cela en vue de réaliser une domination turque qui devait passer par une association avec les frères musulmans avant que ceux-ci ne soient renversés en Égypte.
Question Alexandre, cette coalition contre l'organisation État islamique a-t-elle vraiment une stratégie ?
En tous les cas, la presse arabe, en général, pense qu'elle n'a aucune stratégie et qu'en fait la coalition fonctionne au jour le jour avec un coup par-ci, un coup par-là et avec des résultats dérisoires par rapport aux moyens déployés. Alors certains vont même jusqu'à accuser les Américains de faire exprès de ne pas régler rapidement le problème. Quant à l'entraînement militaire d'une opposition syrienne modérée pour éviter une intervention au sol proposée par les Américains, beaucoup de journalistes considèrent le projet comme étant une chimère. Ils soulignent qu'il y a plus de 70 factions armées syriennes et qu'il est très difficile de savoir qui est vraiment modéré.
Ce que confirment les experts. Michel Paul, c'est à nouveau la crise entre Israël et les États-Unis.
Les États-Unis critiquent Israël pour la construction de nouveaux logements en Jérusalem-Est. En pleine visite du Premier ministre israélien à la Maison-Blanche, Benjamin Netanyahou contre-attaque. Il faut vérifier les faits avant de lancer des accusations, dit-il. Dans l'édition du Haaretz de ce week-end, la réplique de Washington fait la une. Les États-Unis maintiennent leurs critiques. Nous nous sommes basés sur des données exactes. Nous savons ce qui se passe sur le terrain. Une fois de plus, donc, la tension est forte entre Israéliens et Américains. La presse souligne que le Premier ministre israélien est très en colère contre l'ONG La Paix Maintenant, qu'il accuse de sabotage. C'est elle qui a révélé aux Américains les nouvelles mises en chantier dans la partie orientale de Jérusalem, alors que Netanyahou était dans la capitale américaine. Et puis aussi à retenir un éditorial qui affirme que le Premier ministre israélien tente d'effrayer, alors que c'est lui qui a le plus à craindre.
Beaucoup de questions également, Michel, autour de ces constructions à Jérusalem-Est.
Haaretz, par exemple, se demande qui est l'homme de paille qui vend des maisons palestiniennes aux colons israéliens dans le quartier de Silwan à Jérusalem-Est. Et la réponse qu'apporte le journal après enquête auprès d'habitants palestiniens est qu'il s'agit d'un ancien haut responsable du mouvement islamiste en Israël. Son nom, selon le journal, Farid Hajj Yihye. Les colons israéliens utilisent des intermédiaires pour acquérir des maisons dans les quartiers palestiniens de la ville. Le prédécesseur de Hajj Yihye, indique le journal, a été assassiné.
Et toujours dans Haaretz, Michel, un autre article lié aux colons.
Il s'agit cette fois d'une route illégale, ouverte uniquement aux heures de pointe en Cisjordanie, et surtout réservée uniquement aux colons pour leur permettre de rejoindre plus rapidement le principal axe routier. Construite sur des terres palestiniennes, l'armée, selon Haaretz, a ordonné la destruction de cette route, mais permet malgré tout son fonctionnement.
Eid al-Adha ou Eid el-Kébir, la grande fête musulmane du sacrifice et le pèlerinage à la Mecque, font la une de la plupart des journaux arabes, Alexandre.
Oui, c'est le journal qui rapporte qu'il y a 3,5 millions de pèlerins qui sont sécurisés et aussi gardés par 100 000 policiers et militaires saoudiens, pour éviter tout débordement, surtout politique, de la part des extrémistes musulmans et des islamistes. Alors les journaux saoudiens soulignent que 80 imams saoudiens ont été relevés de leurs fonctions à cause de prédications favorables à l'extrémisme.
Et ce que l'on oublie souvent aussi, Alexandre, c'est que l'Aïd, c'est aussi la grande fête du cinéma en Égypte et dans le reste du monde arabe.
Oui, tout à fait. Cette année, ce sont des films d'action et des comédies qui dominent, mais les journaux notent que c'est surtout la danse du ventre qui tient le haut de l'affiche avec Safinaz, qui est une danseuse plantureuse autant que provocante venue d'Arménie. On lui a même confié un rôle principal où elle parle en arabe avec un accent à couper au couteau, mais peu importe, ce n'est pas le jeu de Safinaz qui compte, mais sa capacité à se déhancher en permanence. On lui donne même cette réplique profonde « Je n'y peux rien ». Ce sont mes hanches qui bougent toutes seules.
On conclut avec votre photo du jour, Michel.
Eh bien, c'est la photo du chauffard, la traditionnelle corne de bélier utilisée le jour du Kippour pour expier les péchés.
Merci Michel, merci Alexandre, merci également à notre réalisateur François Porcheron. Vous pouvez nous retrouver sur le site www.rfi.fr à la rubrique émission ainsi que sur notre page Facebook. En attendant, bonne semaine et à samedi prochain sur RFI.